Voilà, donc bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Et comme on ne s'est pas vu depuis 2014, c'est le moment de présenter des vœux à l'ensemble des étudiants qui écoutent ces cours ou qui sont présents, en pensant que quand on présente des vœux comme ça en début d'année, pour nous les chrétiens, ça correspond, si vous voulez, à notre attitude liturgique, justement, dans le sujet, puisque on a célébré, par exemple, le 1er janvier, on a célébré un office d'action de grâce, on a célébré la liturgie selon saint Basile, et dans toutes ces prières, il est question, justement, du fait que Dieu bénit le temps et bénit l'année. Donc, ça se passe sur un plan très élevé, très profond, qui n'ignore pas les souffrances du monde, bien entendu, qui ne peut pas ignorer les tribulations que traverse actuellement, par exemple, notre pays, la France. On n'ignore pas ça, évidemment, mais cette bénédiction de Dieu, cette action de Dieu dans le temps et dans l'histoire, elle reste ce qu'elle est, elle n'est pas retirée. Dieu ne retire pas sa bénédiction à son monde, et à son temps, et à cette année 2015 en particulier, sous prétexte que la folie humaine serait trop importante. Vous voyez, il y a quelque chose qui est inconditionné, et inconditionnel, et inconditionnant d'ailleurs, dans la bénédiction de Dieu. C'est pourquoi nous, les chrétiens, nous permettons de nous souhaiter une bonne année, une année bénie, en dépit des problèmes que nous connaissons, et en dépit également des épreuves qui peuvent survenir dans l'année qui commence. Ça fait partie aussi du chemin du point de vue chrétien. Même les épreuves qui sont permises par Dieu ne sont pas des malédictions, mais sont des formes quelquefois douloureuses, quelquefois presque surhumaines, impossibles à vivre, mais des formes que prend quand même la bénédiction de Dieu et le don de Dieu qui nous est fait. C'est assez mystérieux, assez paradoxal, mais c'est plutôt comme ça que nous vivons, nous, les chrétiens. Et donc ça permet d'introduire la conférence de ce soir sur la liturgie, la théologie de la liturgie. En fait, je m'étais trompé, je croyais qu'il s'agissait d'un cours de dogmatique, et puis en regardant bien le programme, je vois qu'il s'agit bien d'un cours de liturgie, donc il fait suite à celui du mois de décembre. Bon, mais c'est assez bien comme ça qu'on puisse continuer cette méditation sur la liturgie que je fais, comme je l'ai déjà dit, sur un plan propédeutique, c'est-à-dire que, à la différence de ce que j'ai fait l'année dernière, par exemple, qui était quelquefois un petit peu difficile, un peu technique, là j'essaie vraiment de me mettre dans la peau de mes amis les plus proches, des gens de ma famille, ou certains des paroissiens que je connais et que j'aime beaucoup, mais qui, au fond, ne connaissent pas grand-chose, au fond, à la tradition de l'Église, à la théologie de l'Église, qui vivent dans les paroisses, mais sans très bien savoir, sans avoir eu le temps jusqu'à présent de réfléchir beaucoup à ce qui se passe, au contenu des choses, au sens des choses. Donc c'est ça qu'on appelle la propédeutique, mais c'est très très difficile d'arriver à être sans disqualifier le sujet, évidemment, essayons de parler des choses les plus simples, les plus basiques, les plus élémentaires. Ce que j'avais essayé de faire la dernière fois, ceux qui ont suivi le cours se rappellent que j'avais essayé d'énumérer les raisons d'être de la liturgie. Ça répondait à la question, enfin ça répondait ou ça ne répondait pas, ça prétendait répondre à la question pourquoi la liturgie ou la liturgie pourquoi faire. Et j'avais pas tout à fait terminé, mais j'avais énuméré une série de motifs. Et ce soir, donc, parce que je ne peux pas continuer un cours précédent, chaque cours doit être présenter une unité en lui-même. Donc, j'aurais abordé en fait l'idée d'identité en fait de la liturgie chrétienne, sans plus poser la question de pourquoi ou pourquoi faire, mais au fond, la liturgie chrétienne, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? On arrive dans une paroisse, on est né orthodoxe, ou on se convertit à l'orthodoxie, ou on se rapproche de l'Église après un temps d'éloignement. Ça peut arriver, il y a des différents comportements chez nous, dans nos communautés, et quelquefois on a du mal aussi à participer à la vie liturgique, ça nous paraît un peu étrange, ou on se sent étranger en tout cas, ou alors on y participe parce qu'il faut, parce qu'on aime un peu, ou parce que les chants sont beaux, quelquefois pour des raisons qui paraissent superficielles, disons, très, très subjectives. Il faudrait faire une enquête à la fin d'une célébration de la Divine Liturgie, interviewer les personnes qui sortent de l'Église et leur demander qu'est-ce qu'elles sont venues faire là, pourquoi sont-elles venues. On serait surpris de constater la variété des motifs qui expliquent la présence des personnes ce jour-là. C'est assez étrange, et on respecte ça. Mais donc, ça pose un peu la question même de savoir, au fond, de quoi s'agit-il. Et même, par exemple, il y a bon état de mots à expliquer, par exemple, le mot liturgie, il faut quand même y revenir un peu sur son sens. Je pars du principe que ce n'est pas connu. Vous avez peut-être des gens qui écoutent ça vont me dire, mais oui, on connaît déjà. Mais ça, c'est peut-être des gens qui ne sont pas au niveau propédeutique, ce sont des personnes qui connaissent déjà les choses. Moi, je suis là pour expliquer des choses vraiment de base. Par exemple, peut-être que je dois vous dire d'abord qu'il y a des lectures possibles. Je me méfie, j'avais cité le livre de Mircea Eliade, le traité d'histoire des religions, parce que je trouve toujours très très intéressant de situer l'activité religieuse chrétienne au sein du patrimoine général de l'humanité. Je pense que c'est très très important. Enfin, le comparatisme dans le domaine religieux, ça apporte beaucoup à la compréhension de la vie de l'Église, je trouve. Mais enfin, c'est un livre un peu difficile. Je le cite quand même. C'est le livre de donc Mircea Eliade, traité d'histoire des religions, paru chez Payot à Paris et réédité en mars 2004. Qui coûte 22,50 €. C'est assez cher quand même. Il y a un deuxième livre là, qui est peut-être plus accessible et plus dans mon propre sujet, disons, qui est le livre déjà cité 36 fois certainement du père Alexandre Schmemann, qui s'appelle « Pour la vie du monde » et qui a été publié il y a longtemps, mais qui a été réédité par les presses de Saint-Serge à Paris en 2007. Moi, j'ai une édition ancienne, il y a une édition plus récente et que je crois qu'elle a été un peu complétée. Maintenant, j'utilise d'autres choses, bien sûr. J'utilise le livre d'un certain Baumstark, c'est une étude sur la liturgie comparée, et j'utilise aussi un livre que j'ai retrouvé chez moi, un livre de Jungmann, ce qui s'appelle « Des lois de la célébration liturgique ». C'était publié aux éditions du CERF il y a très longtemps maintenant. Et je ne pense pas que ce soit encore disponible, c'est peut-être un livre épuisé, même celui que j'ai, 1956, vous voyez, ce n'était pas tout à fait hier, il s'appelle des lois de la célébration liturgique, c'est vraiment assez intéressant, c'est un liturgiste catholique de très grande qualité, c'est très intéressant de voir ce qu'il dit. Donc moi, pour ma part, j'utilise plusieurs livres, enfin, disons si parmi les auditeurs et auditrices, étudiants et étudiantes qui sont là, il y a des personnes qui ont du temps pour lire un petit peu, le mieux c'est quand même de lire le Pour la vie du monde de Père Schmemann. C'est quand même assez remarquable. Et il explique beaucoup de mots justement dont on a besoin de connaître le sens. Alors, nous les mots, parce qu'on part des mots finalement, c'est le plus commode, qu'est-ce qu'on a comme terme qu'est-ce qu'on a comme vocabulaire pour désigner la réalité dont nous parlons? Eh bien, on a plusieurs mots. On a le mot culte, on a le mot rite, et on a le mot liturgie, quand même, mais on a également d'autres mots. Par exemple, on a le mot office, on a le terme de service, service religieux. On a au moins ces cinq termes-là, vous voyez. Donc alors, est-ce que ces termes sont synonymes? Est-ce qu'ils désignent plusieurs activités différentes? En fait, non, ils se rapportent tous au fait que les croyants que nous sommes disent quelque chose à Dieu, à la divinité, s'adressent à la divinité et essaient d'exprimer à l'égard de la divinité dans laquelle ils croient, et ils essaient d'exprimer ce qu'ils ont de meilleur à lui dire, comme dit une de nos prières, c'est-à-dire d'exprimer leur amour, d'exprimer leur joie, d'exprimer leur crainte aussi, devant la majesté divine, d'exprimer leurs demandes, leurs espoirs, leur souffrance aussi. Donc il y a certainement, finalement, on se rend compte qu'à travers le culte, le rite, la liturgie, les offices, les services religieux, en fait, c'est toute la réalité humaine, toute la réalité que nous portons dans notre esprit, dans notre âme et dans notre corps pour suivre une présentation tridimensionnelle de l'être humain. Et c'est tout ce que nous portons en nous-mêmes globalement, toute notre expérience humaine que nous mettons là devant Dieu, en fait, et avec laquelle nous exprimons devant lui. Alors, c'est vrai que ça amène quelques questions. Par exemple, j'ai reçu récemment sur mon courrier électronique, parmi les courriers que je reçois, dans le cadre du site de la paroisse de Louvciennes, le site sagesseorthodoxe.fr, dans le cadre du site, je reçois beaucoup de courriers, enfin, nous recevons beaucoup de courriers, et un courrier que j'ai reçu disait globalement, mais au fond, le culte, la liturgie, le rite, tout ce dont nous parlons ici, ce sont des choses purement humaines. Ce sont des inventions humaines. C'est rien d'intéressant. Et puis, c'est même la religion, c'est très inutile. C'est même nuisible. Vous n'avez qu'à regarder la télévision, tout ce qui se passe, etc. Bon, on entend ça périodiquement. C'est pas extrêmement intelligent comme remarque, mais c'est pas totalement dénué de fondement. Pas bon. Mais donc, il y a une idée là qui est quand même intéressante, qui est au fond que le phénomène religieux et le phénomène religieux chrétien, pourquoi pas, serait purement un phénomène humain, une activité humaine, pas extrêmement intéressante, éventuellement nuisible, un peu accessoire, arbitraire, et en tout cas ce qu'on appelle contingente. Hein, le mot contingent en français, ça désigne une réalité qui pourrait ne pas être. Donc c'est qu'au fond, il y a de ce point de vue-là, pour l'activité religieuse et donc l'activité liturgique, culturelle et rituelle de l'être humain, il n'y aurait pas de nécessité particulière. Donc ça, c'est un point de vue qui est très intéressant parce que nous pensons à peu près pensons plutôt à l'opposé de cette thèse-là. Mais vous savez, il faut écouter un petit peu ce que disent les gens, c'est intéressant de voir. Il y a quand même des gens qui peuvent penser que ce qui est tellement important pour nous, la vie liturgique, la vie religieuse, au fond, ce n'est pas important. Ce n'est pas important, et qu'en revanche, l'être humain, eh bien, peut croire en Dieu, peut penser qu'il y a une divinité, peut même rendre hommage à cette divinité dans son cœur. Et il y a quand même pas mal de nos contemporains qui plaident pour ça, pour au fond une vie qui serait pas une vie religieuse, une vie de foi peut-être, ou une vie spirituelle entre guillemets, dans laquelle il n'y aurait en tout cas pas de dogme, il n'y aurait pas de rite, il n'y aurait pas de culte, il n'y aurait pas d'église, il n'y aurait pas de prêtre évidemment, il n'y aurait pas de sacrement, il n'y aurait rien de tout ça, et ce serait quand même une forme de vie spirituelle. Beaucoup de gens que nous rencontrons autour de nous plaident pour cela. J'allais dire pourquoi pas. Enfin, c'est peut-être que je vous déçois en disant ça, mais je suis pas quelqu'un qui va partir en guerre en disant voilà c'est nul de dire ça. Je sais pas, moi je trouve que c'est pas mal de dire ça déjà. Vous savez, les gens qu'on rencontre dans le métro, qu'on rencontre dans les transports en commun, dans la rue, dans les cafés, dans les grands magasins, les grandes surfaces. Bah, si déjà ces personnes-là pensent qu'il y a une divinité quelque part, qu'il y a quelque chose, comme ils disent. Et qui sont capables de penser à ce quelque chose, ou à ce quelqu'un peut-être quand même, de temps en temps, et à s'adresser à lui, c'est déjà assez extraordinaire, tout de même. Ça veut dire qu'ils sont encore des hommes. Ce sont des hommes qui sont encore des hommes. Vous voyez? Et même, il y a la perspective athée, qui est une perspective extrêmement intéressante. La perspective athée nous donne de grands renseignements, justement, sur l'activité spirituelle de l'être humain, dans sa position anti-Dieu, anti-religion, anti-chrétienne. Il y a quelque chose dans l'athéisme qui est très, 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 très intéressant et très profond. Il y a un très bon article dans notre très bonne revue Apostolia de M. Stefanescu, je crois, sur le matérialisme. C'était un numéro, je crois, de décembre. Et il montre quand même comment la position de l'athée est une activité de l'esprit. que l'être humain n'est pas du tout en train de nier son propre esprit quand il a une position athée, c'est tout à fait autre chose. Il n'est pas en train de se décérébrer totalement. Et, même quand il développe des thèses matérialistes, ce sont encore des thèses matérialistes issues de l'esprit, d'une activité de l'esprit. Alors, enfin bon, là je déborde un petit peu la question. Mon propos, c'était de tenir compte de cette remarque que le phénomène religieux, le phénomène liturgique, c'est purement des inventions humaines. Et moi, je pense que c'est un peu vrai, si vous voulez. C'est-à-dire que les hommes inventent beaucoup de très bonnes choses. Il y a beaucoup d'inventions humaines remarquables. Et pourquoi est-ce que la religion ne ferait pas partie des inventions extraordinaires dont l'être humain s'est montré capable à travers toutes les civilisations de tous les temps et de tous les lieux, qu'il faudrait avoir arrivé vraiment au XXe siècle, au XXIe siècle, pour cette capacité géniale d'inventer des formes religieuses et d'inventer une relation religieuse avec la divinité, lui soit ôtée. Je veux dire, comment se fait-il que nous sommes devenus incapables d'une telle créativité, d'une telle inventivité, incapables justement de produire des formes religieuses ou de vivifier les formes religieuses que nous avons. Nous ne sommes pas très compétitifs. Nos contemporains ne sont pas très convaincus par notre activité religieuse. Nous ne sommes pas très crédibles, nous les croyants, nous les religieux, nous les hommes les chrétiens, même juifs, ou, ne sont pas crédibles. Je parle pas de l'islam ici, parce que c'est un autre problème. La façon dont le phénomène religieux est utilisé dans les différents milieux islamiques, ça, c'est trop marqué, si vous voulez, par un contexte douloureux, disons, pour qu'on puisse vraiment l'interpréter actuellement. Mais, disons quand même de manière générale qu'il y a un certain discrédit, et que le discrédit vient en bonne partie quand même du fait que nous qui sommes porteurs, disons, d'une expérience religieuse, ne sommes pas toujours très bons, pas toujours très intéressants, pas toujours très très crédibles, et pas toujours très attentifs au fait qu'il y a des gens qui pensent différemment de la façon dont nous pensons. Donc, moi ce que je dis, c'est que, disons que la religion est une invention de l'homme, moi je suis ravi qu'on dise ça, je trouve ça très bien, mais disons que c'est une invention extraordinaire. C'est extraordinaire, et c'est une preuve de la créativité, du génie humain à travers les siècles. Et d'ailleurs, il suffit d'étudier un petit peu l'histoire humaine pour s'apercevoir que tous les peuples, et ça c'est ce que montre par exemple justement l'histoire des religions de Mircea Eliade, tous les peuples ont formé des modes d'expression religieuse. Tous les peuples ont été extraordinairement actifs et inventifs dans le domaine religieux, c'est ce qu'ils sont évertués à trouver des formes qui leur permettent de s'approcher de la divinité, d'obtenir de la divinité quelque chose, éventuellement, souvent des formes magiques, très intéressées, très intéressées, on va dire, mais il y a aussi des formes d'adoration et des formes de contemplation extraordinaires tout de même. Et donc moi je veux bien qu'on dise que l'être humain a inventé tout cela, parce que ça fait plutôt honneur à l'être humain. C'est plutôt quelque chose de positif à dire. Et donc, ces modes d'expression religieuse, elles font partie de l'histoire humaine, font partie de la culture, font partie de la richesse, font partie du patrimoine de l'humanité, et font partie de l'honneur de l'humanité, donc, et absolument pas d'une humanité subalterne, souvent des peuples extraordinairement évolués et intelligents, comme l'Inde, par exemple, les peuples les plus évolués de l'histoire, et qui a montré aussi une créativité, un génie dans le domaine religieux, dont peu de personnes pourraient être capables. Donc, moi je suis d'accord qu'on dise ça. Hein. Alors, il me semble aussi que c'est quelque chose qui est très intéressant à dire, c'est que cette activité, cette créativité de l'être humain dans le domaine religieux, que je veux bien admettre, hein, à condition que ce soit donc une invention de l'homme, et il semble qu'elle se situe essentiellement après la chute. Ça, c'est une idée que je trouve très intéressante, c'est que l'être humain au paradis, on pourrait dire, n'a pas eu de religion. Mais non, il n'y a pas de religion au paradis. Il n'y a pas d'église, il n'y a pas de temple, il n'y a pas de rite, il n'y a pas de symbole, il n'y a pas de forme. Que, pourquoi faire? Qu'est-ce qu'on aurait bien pu faire d'une religion au paradis? C'est totalement prématuré et inutile, puisque l'être humain au paradis, on le voit en lisant les textes de la Genèse, avait une familiarité avec Dieu tout à fait extraordinaire. Et dans cette possibilité de ce que les Grecs appellent la parésia, et la familiarité avec Dieu, donc ne nécessite aucune forme religieuse. Donc c'est vrai, vous voyez, quelque part, moi je réfléchis beaucoup à ça, sur l'intérêt de la religion, sur les dangers de la religion, sur les ambiguïtés du phénomène religieux. Je trouve que c'est très important d'avoir le courage, très simplement et très très sincèrement, de se poser ces questions-là. Oui. Donc il semble effectivement que historiquement, les hommes ont commencé à inventer des formes religieuses après la chute pour se reconnecter, pour retrouver une connexion et une communication avec la divinité et avec trouver un langage en quelque sorte. Et pour cela, ils ont créé des instruments culturels et cultuels. Et ça, je pense que c'est vrai quand même. Ce sera peut-être contesté par quelqu'un, on peut toujours admettre les contestations, évidemment, mais je pense que c'est vrai. Qu'en fait, l'apparition des tout ce qui est du domaine des outils et des instruments, tout ce qui est instrumental, voilà, tout ce qui est instrumental appartient au monde de la chute. À plus forte raison, les armes tranchantes, genre couteau, mais même le fait de lapider quelqu'un, d'assassiner quelqu'un à coup de pierre, ce qui est, je crois, le cas de Caïn quand il tua son frère Abel, et c'est une instrumentalisation de la création. Il a pris une pierre et il s'en est servi comme instrument. Donc là, mais le même Abel, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il avait une activité religieuse après la chute, il offrait des sacrifices à la divinité. Donc on voit très bien que les instruments, les outils, le monde instrumental au sens le plus large, apparaît après la chute, et parmi cette réalité instrumentale, on trouve l'activité religieuse marquée principalement par donc des sacrifices, des offrandes présentées à la divinité. Donc il faut admettre ça. D'ailleurs, pourquoi pas, nous voyons bien que nous-mêmes, à notre niveau tout simple, quand nous aimons quelqu'un, eh bien nous cherchons tous les moyens pour exprimer cet amour. On fait des cadeaux aux gens qu'on aime, on leur dit des paroles aimables et tendres, ou bien on fait leur éloge. Regardez comme les très beaux poèmes dans la littérature roumaine, la littérature française, d'ailleurs toute la littérature, d'ailleurs, à commencer par le Cantique des Cantiques, des très très beaux poèmes qui font l'éloge du bien-aimé ou l'éloge de la bien-aimée. Donc ce sont des activités de type religieux au fond, c'est-à-dire où tu fais l'éloge de celui ou celle que tu aimes. Et à plus forte raison, vas-tu faire l'éloge de la divinité, d'où les hymnes, les grands, Lumière joyeuse, par exemple, qui est une des plus anciennes hymnes chrétiennes, qui appartient à toutes les liturgies, orientales, occidentales, du sud, du nord, tout ce qu'on veut. Eh bien, cette lumière joyeuse, qu'est-ce que c'est d'autre? Sinon, donc, un magnifique poème, un magnifique instrument de la louange de la divinité, lumière joyeuse. Lumière joyeuse. Alors, donc, nous faisons ça. On fête les anniversaires, juste pour m'amuser un petit peu, il y a même des gens, si vous voulez, qui fêtent l'anniversaire de leur animal familier, qui offrent un nouveau collier à leur chien pour ses 10 ans, ou un nouveau panier. Bon. Donc, l'être humain, dès qu'il veut exprimer son amour à l'égard de quelqu'un, de la divinité à plus forte raison, même d'une personne humaine, d'un animal, ou même d'une plante, on a peut-être envie d'honorer cette fleur, la remercier d'avoir fleuri, et ben on va lui mettre un petit peu d'engrais, on va lui mettre un petit peu quelque chose, on va lui retourner la terre, on va la tailler, c'est-à-dire qu'on va lui faire du bien, on va essayer de lui faire du bien pour la remercier d'être fleur, d'être rosier, d'être ce qu'elle est, d'avoir fleuri. Ben, je pense qu'on trouverait beaucoup d'activités toutes simples, qui montrent chez l'être humain la capacité d'avoir un comportement, on va dire, religieux, c'est-à-dire de trouver une forme d'expression pour dire son amour, sa joie, sa gratitude ou sa peur aussi, et son besoin, parce que celui qui taille sa vigne, ou qui taille ses poiriers, ou ses... je ne sais pas quelle autre plante extraordinaire, il les taille aussi avec l'espérance d'obtenir d'eux des fruits meilleurs, bien entendu. Donc, si vous voulez, notre religion avec la divinité, elle se comprend de cette façon-là. Je ne vois vraiment pas ce qu'on peut dire d'autre de très très profond et de très intéressant, excusez-moi, à ce niveau donc propédeutique, tout simple, j'essaie de me situer. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre que dire que notre religion chrétienne, notre religion juive, nous sommes des hommes et des femmes de la Bible, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sinon que notre religion est essentiellement l'expression de notre amour pour Dieu? Ce n'est pas autre chose. Et notre relation, notre communion avec la divinité relève exclusivement de l'amour. Et notre culte, nos rites, notre liturgie, nos services religieux, nos offices religieux, s'expliquent, si je peux dire, s'interprètent exclusivement par cela. C'est-à-dire que quand je dis exclusivement en insistant là-dessus, je veux dire que si on commençait à interpréter les rites par autre chose, ce serait les dénaturer dans leur profondeur. Donc, voilà. Donc, moi je suis d'accord qu'il y a une créativité religieuse du côté de l'être humain, une inventivité extraordinaire, comme le fait n'importe quel quelle maman qui aime ses enfants, n'importe quel enfant qui aime sa maman ou ses parents, n'importe quel époux qui veut célébrer son épouse, n'importe quelle épouse qui veut dire qu'elle l'aime à son mari, parce que ce sont des choses absolument normales, naturelles, belles, saines, évidentes. Il y a quelque chose d'évident dans le comportement religieux, c'est pour ça que je trouve dommage qu'on le conteste, mais généralement on le conteste au nom de ses déformations, de ces caricatures, de cette complication. Au fond, notre vie religieuse, elle est assez simple. Elle pourrait être assez simple. Regardez, qu'est-ce qu'on fait dans une maison? On allume un petit peu d'encens, on allume une bougie ou une veilleuse devant l'icône, on s'incline, on se met à genoux, mais ces choses-là sont toutes simples. Ou on bénit le repas, qu'est-ce qu'on fait d'extraordinaire? C'est donc de remercier Dieu de nous avoir donné la nourriture qu'on prend, je sais pas, ça paraît une chose absolument simple. Bon, alors donc ça, je pense que l'idée que la liturgie, la religion en général, ait une forte origine humaine, ça je pense que c'est vraiment, vraiment intéressant, et que c'est bien, et qu'on va le retrouver dès qu'on étudie la liturgie en profondeur, on s'aperçoit que cet apport humain est absolument fondamental dans la liturgie chrétienne en particulier. Mais, si on dit ça, c'est quand même pas tout à fait vrai non plus. Parce que nous savons très bien que certaines formes religieuses viennent non pas des hommes, mais de Dieu. À partir du moment où la personne avec qui je parle, une personne tout à fait simple, tout à fait même ignorante, que je rencontre autour de moi dans la vie de tous les jours, admet qu'il y a une divinité quelque part, tout de même. Bon, autrement, on peut pas vraiment parler, mais à la limite, on va dire ça. Quelqu'un qui accepterait quand même qu'il y a une divinité quelque part, on va être en train de lui dire, mais attends, cette divinité que tu acceptes, que tu reconnais, que tu connais, tu ne connais peut-être pas, mais dont tu admets a priori l'existence, dont tu dis que tu crois qu'il y a quelque chose, les gens disent ça. Moi, je crois qu'il y a quelque chose. C'est une grande expression, bon, on n'a pas dit grand-chose, je crois qu'il y a quelque chose. Bon, si tu peux dire je crois qu'il y a quelqu'un, c'est déjà un petit peu mieux, et si tu peux admettre que ce quelqu'un s'est peut-être révélé, et a peut-être lui-même ce quelqu'un divin, cette personne divine, hein, qu'on trouve dans la Bible, etc., c'est peut-être exprimé, a peut-être dit quelque chose, a peut-être révélé justement des éléments religieux à l'être humain. Alors ça devient assez intéressant aussi. Donc il y a quand même dans le phénomène religieux une origine, je pense honnêtement, enfin, c'est pas que humain. Il y a des éléments, qui sont très nettement divins quand même, très nettement divins. Par exemple, plein d'exemples de ça. Par exemple, nous savons que Dieu, dans l'Évangile, parce que c'est peut-être le plus facile, le plus accessible pour tout le monde, dans l'Évangile, on voit très bien que Dieu nous a appris une certaine façon de prier. Ah oui. Quand il nous a appris à dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié », la suite de ce texte admirable, il nous a appris quelque chose, il nous a donné une manière de prier, il nous a révélé comment le prier. C'est tout à fait extraordinaire. Ça, c'est pas une invention des hommes. Le Notre Père n'est pas une invention des hommes, justement. Et ça, c'est intéressant, ça. Non, le Notre Père n'est pas une invention des hommes. Alors, justement, le Père Baumstark, dans son livre sur la liturgie comparée, que je n'ai pas apporté, parce que ça faisait beaucoup de choses à lire, il a, tout à fait au début, justement, il montre, il fait une comparaison entre les différents textes du Notre Père, comme on le dit, et il dit qu'il y a peut-être d'autres, alors ça c'est une supposition, une hypothèse de sa part, il dit qu'il y a peut-être d'autres textes, d'autres prières que le Christ Dieu, puisqu'il s'agit de Dieu quand on parle du Christ, le Christ Dieu aurait appris à ses disciples, peut-être, mais en fait on n'en sait rien, parce que nous ce que nous avons dans les textes du Nouveau Testament, ben c'est cette prière-là, voilà. En tant que prière textuelle. Maintenant, nous avons d'autres sources. Par exemple, l'apôtre Paul rapporte les paroles de l'institution. Donc, nous savons aussi que, par exemple, le Christ est celui qui dit, c'est lui qui nous a dit d'offrir le pain et le vin. Si c'est pas une invention humaine, vous avez dit que ça existait dans la religion juive. Je suis d'accord avec vous. Bien sûr que ça existait dans la religion juive. L'offrande du père de famille, bien sûr, l'offrande du pain. Mais à ce moment-là, c'est Dieu lui-même qui a dit, faites ceci en mémoire de moi. Donc, nous recevons cette activité religieuse, cette activité liturgique qui est même au centre de la liturgie chrétienne, hein, puisque ça a donné des développements immenses de nos belles liturgies selon Saint Basile, selon Saint Jean Chrysostome. Mais le noyau de la liturgie, c'est ce commandement divin qui a été rapporté, que nous connaissons et auquel nous obéissons. Alors c'est vrai qu'on pourrait très bien dire, là aussi pour tenir compte des propos pas agressifs, si vous voulez, mais critiques de nos amis peu croyants, non croyants ou moitié croyants, disons, on pourrait dire qu'effectivement dans la liturgie très développée, je pense à la liturgie de l'Église orthodoxe, évidemment, pour me limiter quand même, pour balayer devant notre propre porte, c'est vrai que nos offices liturgiques sont immenses, sont très complexes. Je ne veux pas dire seulement qu'il dure longtemps, ça ne veut rien dire, ça dure longtemps pour les gens qui s'ennuient, mais si on s'y intéresse, c'est pas long, c'est pas un problème de longueur. Mais il y a quand même une complexité, il y a une richesse, il y a une inventivité humaine qui s'est manifestée incontestablement dans ces offices, il y a le contraire, bon. Et donc le noyau divin paraît tout petit. Mais c'est intéressant quand même. Si on prend la liturgie, notre liturgie selon Saint Jean Chrysostome ou selon Saint Basile, qu'est-ce qui vient de Dieu d'une manière vraiment directe, ben, ce sont les paroles, ces paroles-là, faites ceci en mémoire de moi, et puis les citations, quand le prêtre ou l'évêque dit paix à tous, bon, ben, il cite la parole divine, donc, oui, bon. Ça paraît assez mince, tout le reste, on a l'impression que ce sont des développements extraordinaires, des symboles, des citations bibliques qu'on a été chercher dans les psaumes, ce qui est vrai. Mais ce qui serait vraiment la fondation divine, c'est vrai que ça se rapporte à quelque chose d'assez ténu, au fond. Mais vous allez voir que c'est un peu plus complexe que ça, quand même, mais c'est pour dire que ça, bon. Et puis, par exemple, c'est vrai pour le baptême aussi, pour pas rester uniquement dans le cadre de la divine liturgie eucharistique. Ah, tout le monde sait que nous baptisons parce que Dieu nous a dit de le faire. Donc c'est pas le baptême n'est pas une invention humaine. Et d'autant plus que le baptême, par exemple, que nous avons reçu de Dieu directement, du Dieu homme, n'est pas le baptême de Jean. Il n'y a pas le baptême juif ancien. Ça, c'est intéressant, parce que alors, on peut dire, mais ce n'est jamais, au fond, c'est le baptême Ça existait déjà, dans tous les peuples, il y a eu des bains rituels. Ben oui, mais justement, le baptême que nous pratiquons, ce n'est pas. C'est un baptême donné par Dieu directement, c'est Dieu lui-même directement qui nous dit « Allez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Donc voilà, c'est un cas typique où une activité religieuse, on va dire, une activité liturgique, a son origine dans la bouche même de la divinité. La divinité elle-même dit ce que elle attend que l'on fasse pour communiquer avec elle. Et il y a d'autres exemples, bien sûr plus anciens, dans le cas de Moïse, par exemple, une bonne partie des rites qui sont dans la tradition lévitique sont des rites que Moïse a entendus de la bouche du Verbe aussi. Donc il y a quand même l'aspect révélation, la dimension révélation du phénomène religieux, du phénomène liturgique est une dimension immense. Donc on s'aperçoit que, tout de suite, vous voyez, on est dans une vision chrétienne des choses, parce qu'on se rend compte que l'activité religieuse, eh bien, elle a incontestablement une réalité humaine, je vais commencer par ça, et elle a également une réalité divine. L'activité religieuse telle que nous l'expérimentons, nous les chrétiens, mais telle que l'expérimentent aussi les juifs sans qu'ils l'explicitent de cette façon-là, peut-être, eh bien, c'est la réalité du culte, la réalité du service, de l'office divin, de la liturgie, de la religion elle-même, c'est une réalité divino-humaine. Les deux natures du Christ, ils sont manifestes, et palpables et vérifiables. La religion, c'est quelque chose de divino-humain. C'est pas seulement quelque chose d'humain, ce n'est pas seulement quelque chose de divin, quelque chose de divino-humain. Ou d'humano-divin, si vous préférez le mettre dans l'autre sens. Donc oui, tout ceci est quand même assez important. Donc il y a des rites humains, il y a une institution divine incontestablement. On pourrait prendre 36 autres exemples, hein, il y en a des quantités, hein, je pense quand même. Mais je parle d'expression directe de la part de la divinité, oui. Mais une autre question qu'on peut se poser, mais vous allez voir que ça va un peu dans le même sens, c'est à partir du moment où on admet ce que j'essaie de dire le plus simplement possible, je crois quand même, à partir du moment où on admet cela, l'autre question qui vient, c'est toujours un peu dans la même idée, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que la liturgie chrétienne, qu'est-ce que c'est que la religion, qu'est-ce que c'est... Là, l'autre question qui va avec, c'est qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il se passe quelque chose ou est-ce qu'il ne se passe rien? Ça, c'est une question très très importante, ça aussi. Moi, je me rappelle d'avoir parlé avec des personnes, il n'y a pas si longtemps, c'était des orthodoxes de naissance, disons, donc je dis ça avec... Je suis un peu ennuyé de dire cela, mais c'est quand même intéressant. Et ces orthodoxes de naissance sont venus à l'église, et on en a parlé un petit peu, comme ça, avant la liturgie ou après, je ne sais plus. Et ils m'ont dit, vous savez, pour nous, ça, tout ça, ces formes, la liturgie, le culte, pour nous, ça ne correspond à rien du tout. Pour nous, ils m'ont dit cette expression, ils m'ont dit, ce sont des formes vides. Ce sont des rites complètement vides et privés de signification et de contenu. Alors c'est assez intéressant, mais il leur dit très très gentiment, et moi je fais exprès toujours de vraiment écouter jusqu'au bout, de pas bondir d'horreur en entendant une chose pareille. Ça veut dire que tu peux être né orthodoxe, baptisé orthodoxe, avoir été élevé vaguement dans un milieu orthodoxe dans ton pays, et n'avoir absolument pas accès au contenu, à la substance, au sens des choses. Et donc, tu vas à l'église quand même parce que tu retrouves les copains, parce qu'on retrouve... Il y a une certaine vie sociale, en fait, dont la religion sert un petit peu d'argument, disons. Au fond, le moment religieux est un moment de la vie sociale. C'est bien, d'ailleurs, ça a toujours été le cas, et c'est très très bien comme ça, on va pas revenir là-dessus. Tout est bien, si vous voulez. Je sais pas quel père ancien dit ça, il dit, faut mépriser aucun des degrés de la réalité. Donc les degrés les plus apparemment inférieurs d'une réalité sont des degrés nécessaire et respectable. Parce qu'il y a des personnes, des chrétiens qui pensent être orthodoxes, pour qui la religion ce n'est pas autre chose que cela. Donc en fait, pour eux, il se passe rien. Il se passe rien. Et j'ai entendu la même parole d'une amie, enfin, on peut dire, qui est pasteur dans une paroisse protestante de la région parisienne. Je peux pas la nommer, ce serait maladroit, puis ce serait donner trop d'importance peut-être à ce qu'elle m'a dit, et je ne suis pas sûr d'avoir absolument bien entendu tout ce qu'elle m'a dit, quoi que je vous l'ai fait répéter. Il me semble bien qu'elle m'a dit que pour elle, en tant que pasteur, dans le service du baptême qu'ils ont dans cette paroisse protestante de l'église réformée unie, protestante unie de France, comme on dit maintenant, eh bien dans l'office du baptême, il ne se passe rien. Elle m'a dit, ben, je l'ai fait répéter un peu, donc je crois avoir quand même bien entendu ce qu'elle m'a dit d'elle-même. Il me semble bien qu'elle m'a dit que pour elle, il ne se passe rien. Donc qu'est-ce que c'est ? Alors ce sont des signes, des symboles comme ça, pour rappeler une réalité, pour exprimer une réalité. Mais en fait, ce n'est pas nécessaire. C'est pour ça qu'elle me disait également que le baptême n'est pas nécessaire pour le salut. T'as pas d'importance particulière. Une autre dame pasteur, il y a 2-3 ans, nous avait expliqué dans une réunion comme ça que le baptême n'est pas nécessaire pour la communion, qu'on communie puis on est baptisé après. En fait, il se passe pas grand chose pour eux pour ces deux personnes-là, ces deux femmes pasteurs, mais on dit à peu près la même chose, c'est-à-dire que ce qui est rituel chez eux, je dis pas que ce soit le cas de tous les protestants, je parle de ces deux personnes-là seulement, je fais très attention à ce que je dis, je veux pas globaliser, ou je suis pas sûr d'avoir tout bien compris, enfin. Ah bon, donc, il ne se passe rien. Il n'y a pas de contenu, il n'y a pas d'événement, il n'y a pas une grâce spéciale qui arrive dans le cas du baptême, pas une grâce spéciale qui arrive dans le cas de la Sainte Cène. Bon, on rappelle quelque chose qui a eu lieu, dont parle l'Écriture. Bon, et pour mes amis orthodoxes, c'est à peu près la même chose, vous voyez. Au fond, il ne se passe rien. Donc, pour moi, c'est une grande question, ça. Se passe-t-il quelque chose ou rien? De même qu'on pourrait dire, dans l'Église et dans notre activité religieuse, y a-t-il quelqu'un ou n'y a-t-il personne? C'est vraiment une question aussi qu'on peut poser. Ce qui est une question quand même grave, parce que si, d'une part, l'être humain de tout temps se donnait un mal fou pour inventer des formes religieuses et essayer d'avoir l'oreille de la divinité, et si d'autre part la divinité elle-même s'est donné le mal, si je peux dire, de s'exprimer, de révéler à l'être humain quelle forme de prière et de culte elle attend de lui, et si nous, après ça, nous disons qu'il n'y a rien, qu'il ne se passe rien ou qu'il n'y a personne, nous sommes quand même un peu en décalage. Donc, je ne sais pas si on peut vraiment, même si on écoute ce point de vue avec respect, je ne sais pas si on peut vraiment l'admettre comme très très intéressant. Il ne correspond pas à la réalité religieuse telle que j'essaie de l'expliquer avec bon sens, je crois, pour commencer. Mais je veux bien qu'on me dise ça, mais je ne sais pas ce que je vais faire d'une telle affirmation. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise à quelqu'un qui va nous dire que dans les sacrements, dans les actes religieux, il ne se passe rien? Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Je ne sais pas trop. Hein. C'est vrai que c'est embarrassant, quand même, c'est embarrassant. Et c'est vrai que nous ne pensons pas ça, mais c'est pas seulement que nous ne pensons pas, mais je pense qu'il y a, c'est ce que les grands historiens de la religion ont exprimé, pas seulement Mircea Eliade, mais Rudolf Otto, par exemple. Ils ont dit, il y a quand même dans l'expérience religieuse un ressenti du côté de l'être humain, un frémissement, une crainte, un émerveillement. Alors on va me dire, oui, mais ça c'est subjectif. Ben oui, mais la subjectivité c'est très important. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas de la subjectivité? Pourquoi est-ce que le ressenti serait forcément quelque chose de méprisable? Pourquoi est-ce qu'on serait ridicule quand on pleure devant la beauté d'une forêt ou de la... Pourquoi est-ce que ce serait ridicule d'être archi-subjectif dans la façon dont on perçoit la réalité ou la vérité? Est-ce qu'il est ridicule de pleurer parce que un film est très beau, parce que une pièce de théâtre est magnifique, parce qu'une histoire qu'on nous raconte nous touche profondément, et à plus forte raison parce que l'évangile qu'on entend dans la liturgie nous touche tellement. Est-ce que c'est vraiment tellement ridicule d'éprouver des sentiments subjectifs? Je ne suis pas sûr que ce soit tellement ridicule que ça. Il y a quand même une perception du vrai, une perception du beau, une perception de la bonté, des valeurs profondes qui sont exprimées dans tel texte ou tel spectacle. Et cette appréhension subjective, elle est très belle, elle est très profonde, elle est très réelle, elle a toute sa valeur quand même, vous voyez. Donc je crois qu'effectivement, on va me dire, il se passe rien, il y a personne, mais c'est pas le cas de tout le monde. Il y a des personnes aussi qui ont ressenti très très fort, hein. Pas seulement dans leur religion, mais également, comme je le disais l'autre fois, devant les couchers de soleil et autres formes de la beauté naturelle, le ressenti devant la beauté du monde, comme le ressenti devant la souffrance du monde, l'horreur que l'on ressent à la vue de certaines images de la semaine dernière, par exemple, cette horreur, alors qui est profondément subjective aussi, va-t-on nous dire, mais cette horreur, c'est une perception d'une certaine vérité, la vérité en l'occurrence étant qu'il est scandaleux que l'être humain fasse cela à un autre être humain. Alors cette vérité-là, de l'inhumanité de l'homme, cette vérité est ressentie, elle est ressentie profondément comme horreur. Elle est ressentie comme horreur, de même que la beauté, elle, est ressentie comme admiration. Vous voyez, mais c'est tout ceci du domaine du ressenti très, très 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 important. Donc il y a bien quelque chose. S'il n'y avait pas quelque chose, on ne serait pas horrifié d'avoir vu des gens assassinés à bout portant. Pourquoi est-ce qu'on est horrifié de voir des enfants décapités? Pourquoi est-ce que c'est horrifiant? C'est bien qu'il y a quelque chose qui se passe, qui est inadmissible, qui est abominable. L'abominable nous fait bien penser qu'il se passe quelque chose. Et le merveilleux aussi nous fait penser qu'il se passe quelque chose. Donc, je pense qu'il y a un sentiment confus, diffus, de l'événement. Et donc, on retrouve justement dans l'expérience religieuse, il y a quelque chose de profondément événementiel dans l'activité religieuse. D'une part parce que cette activité dépend d'événements, par exemple un jour, une date, un lieu, une heure, une fête, quelque chose qui s'est passé, qui est advenu, donc quelque chose d'événementiel dans l'activité religieuse et liturgique et cultuelle en elle-même, c'est quelque chose d'événementiel, mais c'est événementiel aussi par le fait qu'il se passe quelque chose à l'intérieur de ces gestes, de ces actions, de ces prières, de ces mouvements, de ces processions, de ces actions. Il se passe quelque chose. Et nous pensons ça parce que nous avons la parole du Christ aussi. C'est vrai que notre conception de la liturgie, une conception de la religion, notre conception, je ne sais pas, elle est chrétienne, nous n'avons pas de la religion une conception simplement d'historien des religions. Il y a quelque chose qui est autre et qui fait de la liturgie, la religion chrétienne, quelque chose de spécifique. Et qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la présence du Christ dans l'activité religieuse et liturgique qui est la nôtre. Et le Christ dit ça quand même: je suis au milieu de vous. Quand vous êtes deux ou trois réunis, je suis au milieu de vous. Et nous reprenons beaucoup cette phrase-là, surtout maintenant, dans la liturgie, il y a un moment, on dit ça, le Christ, juste avant de proclamer le credo, le symbole de la foi, on dit ça, le Christ est au milieu de Christos, il mijlocul nostro, maintenant on le dit tout fort, ce qui est très bien, mais avant ça on ne le disait pas tout fort, ce qui était un peu dommage, mais on le disait quand même, c'est-à-dire qu'on citait. Et il y a également un passage de l'évangile, dont je n'ai pas la référence ici, pardon, il dit, il y a quelqu'un au milieu de vous que vous ne connaissez pas. Donc cette idée que au milieu de nous, parmi nous, entre nous, il mijlocul nostro, c'est-à-dire, oui, il mesimon, les Grecs, oui, au milieu de nous, oui, il y a quelqu'un, qu'on ne nous dise pas qu'il n'y a personne, il y a quelqu'un. D'où notre attitude religieuse aussi de, pas seulement de respect au sens peut-être un peu négatif du mot, mais le respect profond, c'est-à-dire la considération pour la personne, pour celui qui est là, fait qu'on entre dans une église, qu'on participe au service liturgique avec un respect, ou on va dire une conscience de la présence. Et plus on évolue, je pense, plus on est présent à la présence, plus la présence nous bouleverse, plus la présence nous touche. C'est pas qu'on y croit simplement de manière crédule, c'est pas de la crédulité la religion, c'est du vécu, c'est du ressenti, c'est de l'expérimenté. Nous vivons la liturgie, nous vivons notre religion, nous vivons cette présence du Christ, nous le vivons et nous l'écoutons nous parler à travers toutes les formes qu'il prend, directes ou indirectes, indépendamment de « faites ceci en mémoire de moi », il y a toutes les paroles qui sont citées, lectures qui sont faites dans lesquelles le Christ parle. Donc celui qui vient de dire « je suis au milieu de vous » est également celui qui nous parle par le Saint-Évangile, par l'intermédiaire des apôtres, par les citations des psaumes qui sont faites, mais aussi par les gestes, les signes, les bénédictions, les symboles, les couleurs, les parfums, enfin tout ce que la religion utilise comme instrument. Donc c'est vrai que la religion telle que nous la connaissons, elle assume la chute, parce qu'au fond elle est très instrumentale, notre religion. Tout ce qui est les grands symboles que nous avons, ce sont des instruments, ce sont des moyens, les sacrements sont des moyens, les gestes, vous voyez, parce qu'en fait nous ne sommes pas au paradis. Ce que nous célébrons, c'est éventuellement le sacrement du royaume, c'est-à-dire une anticipation, mais ce n'est pas le royaume. Vous voyez, donc nous ne sommes pas des gens nous ne sommes pas au paradis. Nous sommes sur terre, dans un monde qui est limité, et nous attendons la manifestation royale et souveraine et lumineuse du Christ à la fin des temps, son retour glorieux. Vous voyez, mais la liturgie, elle, n'est pas déconnectée des conséquences de la chute. Elle les assume. Elle les assume dans le simple fait qu'elle utilise des instruments, comme je viens de le rappeler. Donc, la présence du Christ dans le culte, dans les services, dans l'Église, en fait, dans son Église, c'est quelque chose qui est très 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 important et qui va avec la relation que nous avons avec lui, qui est essentiellement une relation d'obéissance. Le Christ est celui qui dit « faites ceci ». Alors, que ce soit pour les paroles de l'institution ou pour le baptême, par exemple, deux exemples que j'avais pris, « faites ceci en mémoire de moi ». Alors ici, il y a une expression qui est importante, c'est l'expression « mémoire de moi ». C'est vrai que ça peut être interprété différemment. On peut très bien dire ce que dit dans certains chrétiens. Alors, on fait mémoire, c'est qu'on se rappelle de quelque chose qui a eu lieu il y a très longtemps, très longtemps, très longtemps, 2000 ans, vous voyez, personne n'y était, hein, donc c'est quelque chose du passé qui est rappelé, on fait mention, hein, c'est vrai que c'est pas exactement comme ça que les orthodoxes, que nous espérons être, interprètent cette expression-là. Pour nous faire mémoire, j'essaie de m'adresser aux moins informés d'entre nous, oui. Je parle à mes amis qui connaissent rien à rien de la religion. Mémoire, faire mémoire, ça va pas être facile d'expliquer ça. Faire mémoire. J'ai envie de dire que faire mémoire, pour nous, c'est actualiser, c'est rendre présent, c'est revivre les choses, etc. Quel exemple est-ce que je vais pouvoir trouver? C'est vrai que pour la plupart de nos contemporains, quand on fait mémoire, ça se rapporte au passé, on se rappelle nos chers disparus, par exemple, là. Mais en roumain, c'est pas ça. Quand on dit, pomene, je te dois, souviens-toi, maître de ton serviteur un tel et une telle, quand on prie pour les défunts, c'est-à-dire on ne demande pas à Dieu de faire un effort de mémoire absolument extraordinaire pour se rappeler des gens qui ont existé il y a 10 ans, 30 ans, 20 ans, mais on lui demande de les considérer comme actuellement vivants et actuellement présents. Donc c'est vrai que c'est une expression qui est très, très difficile à manier, en fait. Je ne sais pas si j'arriverai à convaincre mes amis incroyants du sens du mot ici, de l'expression faire mémoire, faites ceci en mémoire de moi. Tout le monde comprend ça comme une manière de rappel du passé. Donc je vais être obligé d'expliquer, je fais l'effort d'expliquer propédeutiquement la chose, que, en fait, pour nous, faire mémoire, c'est actualiser la réalité de l'événement et du fait. Ceci a lieu maintenant. Et ça n'a pas lieu de manière répétitive, ça c'est très important. Là, chaque liturgie n'est pas, chaque célébration de la liturgie n'est pas une liturgie après une liturgie après une liturgie, une indéfinie répétition une énumération des multiples liturgies au pluriel depuis le début des temps. Mais chaque liturgie est la divine et unique liturgie. C'est-à-dire que c'est une actualisation du mystère dans son unicité. Son unité aussi, mais son unicité, c'est-à-dire son caractère unique. Le sacrifice du Christ est unique, la célébration est unique, et le moment dans lequel il fait ceci en mémoire de moi est un moment unique, dans lequel, comment est-ce que je vais arriver à expliquer ça? Simplement, dans lequel je pénètre, dans lequel je suis admis, à ce moment-là, je deviens co-présent de cette présence, je deviens co-célébrant de cet événement. Aujourd'hui a lieu cette parole. Et c'est vrai pour l'absolution, par exemple, quand le prêtre donne l'absolution pour les péchés, c'est le même phénomène, c'est-à-dire le Christ a dit aux apôtres, ce que vous allez remettre sur terre sera remis aux cieux, ce que vous allez pardonner sera pardonné, etc. Et donc, quand le prêtre pardonne, c'est que cette parole-là s'accomplit aujourd'hui, maintenant, pour telle personne. Aujourd'hui s'accomplit. Et le Christ nous donne l'exemple de ça. Il y a un très bel évangile, quand le Christ se trouve dans la synagogue de Capharnaüm, je crois, et qu'il lit ce rouleau du prophète Isaïe, qui dit « Je suis arrivé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, la libération aux captifs, etc. » que le Christ referme le livre, plutôt il roule la Torah, il la rend, la Torah, au serviteur qui est là, et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, aujourd'hui, cette parole s'accomplit pour moi. Donc le mot ici, important, c'est évidemment le mot s'accomplit, mais c'est le mot aujourd'hui. Et nous avons beaucoup de textes liturgiques qui commencent par aujourd'hui, beaucoup de ce qu'on appelle des tropaires, c'est-à-dire ces petits hymnes liturgiques que nous utilisons dans l'Église orthodoxe, beaucoup des tropaires commencent par le mot aujourd'hui. Par exemple, le kondakion, on appelle ça un kondakion, c'est le petit hymne, un des deux petits hymnes qu'on chante au moment de Noël, on dit « La Vierge aujourd'hui » mettre au monde l'éternel. Et dire en grec, c'est le mot aujourd'hui, il est au début, simeron, ou astes, en roumain je pense que vous devez avoir, non, en roumain vous avez fait shora astes, il vient en numéro 2. Mais en grec, c'est bien en premier, simeron, parthenos, eteke, ou toniontum, tout c'est où. Donc en grec, le mot simeron, il est dans beaucoup de tropaires, ce mot simeron, ce mot aujourd'hui, est l'objet de développement mélodique extraordinaire. Bon, ça c'est encore, on va dire, ce sont des fioritures. Mais voilà, on est dans l'idée de aujourd'hui, l'accomplissement, aujourd'hui, la mémoire, c'est ça, la mémoire, c'est être au présent de l'action, au présent de la présence, et être soi-même présent à cette présence. Donc il se passe quelque chose, du coup. Non seulement il y a quelqu'un, et ce quelqu'un, ce verbe, ce Christ qui est présent et qui parle, mais il y a aussi il y a un événement. Quand le Christ dit ceci est mon corps, ceci est mon sang, ah, c'est ça l'événement, c'est cette désignation du pain et du vin, cette identification du sacrifice du pain et du vin à son propre corps, à sa propre humanité transfigurée, sa propre humanité divinisée, ça c'est l'événement. Mais cet événement, il s'accomplit là, maintenant. Il s'accomplit là, maintenant. Et c'est incontestable que pour nous, les orthodoxes, comme le pensent aussi les catholiques d'une certaine façon, enfin, encore que c'est peut-être plus spécifique chez eux, quand ils parlent de présence réelle, ça se rapporte vraiment aux espèces consacrées qui sont sur l'autel ou dans le Saint-Sacrement, etc. Alors pour nous, la notion de présence, elle est beaucoup plus globale. Nous avons le sentiment et la conscience et la foi que le Christ est complètement, totalement présent dans tous les actes qui peuvent se réclamer de lui, tous les actes qui peuvent être mis sous sa responsabilité. Il est présent. C'est pour ça que nous avons dans la Divine Liturgie, selon saint Jean Chrysostome et selon saint Basile, un moment très 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 important, juste avant la fraction du pain, juste avant que le prêtre il sépare les quatre parties de l'agneau, juste avant il dit au Christ, toi qui sièges à la droite du Père et qui es invisiblement présent avec nous par la grâce de ton Esprit très saint et très bon. Ça, cette parole-là est extraordinaire, vous voyez, parce que c'est une, à rien dire, ce sont les hommes qui le disent. Mais le Christ a dit avant, il avait dit, je suis au milieu de vous. Donc, nous, au fond, nous lui répondons en lui disant, toi qui es présent avec nous, invisiblement, par la grâce du Saint-Esprit. Donc ça, c'est vraiment notre expérience religieuse profonde. Donc quand on dit, qu'est-ce que c'est que la caractéristique de la liturgie chrétienne? Qu'est-ce que c'est qu'une liturgie chrétienne? Quel est le sens chrétien de la liturgie? Quel est le contenu théologique du rite chrétien? C'est le Christ lui-même. C'est ça le contenu de la liturgie. C'est lui le contenu de la liturgie, et c'est lui le chef aussi de cette célébration. Ça, on y reviendra en général. Mais ça se voit beaucoup aussi dans le fait qu'on pourrait dire qu'au fond, la liturgie, le culte chrétien, il est logocentrique. Ça, c'est pas un mot pour la propédeutique, c'est un mot trop compliqué, ça. Hein. Mais c'est-à-dire qu'il est centré sur le Verbe. Tout dans la liturgie est centré sur le Verbe. Ça se voit, c'est pour ça qu'il faut faire très attention à la célébration, quand on se lève, il faut faire très 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 attention que les gestes soient clairs. Et en particulier, l'entrée avec l'Évangile, ce qu'on appelle la petite entrée dans notre liturgie, c'est un moment très 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 important. Il y a des pays, en Géorgie, par exemple, on m'avait raconté ça, quand l'Évangile est porté processionnellement comme ça, les fidèles, le peuple se précipite vers l'Évangile pour l'embrasser, le toucher, le vénérer et l'adorer. Et il se précipite vers le Christ. Vous voyez, je pense que chez les orthodoxes, c'est très très fort, cette conscience que le Christ est présent dans l'Évangile. Le Christ est présent dans la croix. Le Christ est présent dans son icône. Le Christ est présent, bien entendu, dans son corps très précieux et son sang très pur. Donc, vous voyez, mais en même temps, ce caractère central de l'Évangile qui se voit dans le fait qu'on lit toujours, que l'Évangile est toujours lu, toujours proclamé, que le Christ parle toujours avant qu'on fasse une bénédiction. Je ne sais pas, par exemple, on voulait bénir de l'eau, on lit un Évangile qui se rapporte à la bénédiction de l'eau. On veut célébrer le mariage, on lit l'Évangile correspondant au mariage. On veut célébrer le baptême, on lit l'Évangile qui va avec le baptême, etc. C'est que toujours, 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 c'est la parole, et la parole en personne qui est le Christ, c'est la parole qui a la parole, si vous me permettez de jouer sur les mots. C'est la parole qui a la parole et qui se manifeste comme chef, comme responsable et comme instance suprême de l'action liturgique qui est accomplie. Ça, c'est extrêmement important. Et on devrait le faire, par exemple, dans le cas, je reviens à la confession, c'est un petit peu dommage qu'on ne le fasse pas. Ce serait bien que, bien sûr, on cite la parole, on dit dans la prière de l'absolution, le prêtre cite les paroles du Christ qui dit « Ce que vous pardonnerez sur terre sera pardonné au ciel », etc. Mais c'est dommage qu'on ne lise pas l'Évangile. On devrait pouvoir, en fait, lire aussi l'Évangile pour montrer qu'à ce moment-là, c'est vraiment le Christ lui-même, la parole en personne, qui pardonne, qui délie et qui sauve. Donc il y a ce côté donc christocentrique, si vous préférez, à logocentrique, hein, christocentrique du culte chrétien, mais également il y a un côté pneumatocentrique, pardon, ça commence à rentrer dans les gros mots là maintenant, oui, c'est-à-dire que l'Esprit Saint est celui par qui le Christ est présent. Donc c'est la présence centrale du Christ va avec une présence centrale du Saint-Esprit, non pas comme deux personnes trop séparées, elles sont distinctes si vous voulez, mais elles sont profondément unies, parce que le Christ est présent dans l'Église, mais il est présent en étant rempli de la grâce du Saint-Esprit. Il est présent comme celui qui déborde de la grâce du Saint-Esprit, celui sur lequel l'Esprit-Saint repose de toute éternité, et celui qui ruisselle, si je peux dire, de la grâce du Saint-Esprit, qui irradie la grâce du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est présent comme celui qui nous fait connaître le Christ, qui nous fait irradier justement le Christ, qui fait que nos voix le reconnaissent, etc. Donc c'est Bon, et puis un dernier, il y a deux points que j'aurais abordé, mais peut-être qu'il faut que je conclue maintenant, je ne sais plus. Si on va jusqu'à 10h ou on arrête avant 9h, non, c'est 9h30. Donc il faut que je conclue. Il y a deux points sur lesquels on pourrait revenir, donc une autre fois, mais je crois que j'en ai déjà parlé, et puis j'en reparlerai. C'est le fait que le culte chrétien, qui est christocentrique, qui est l'expérience de la présence du Christ, et pas seulement l'expérience de la présence du Christ, mais l'assimilation de cette présence par la communion, c'est que nous nous nourrissons, nous nous abreuvons de cette présence, nous consommons cette présence du Christ, c'est assez... parce que la liturgie est un repas, parce que le culte par excellence des chrétiens est le culte eucharistique, et ce culte eucharistique est un repas, un moment où pas seulement on célèbre la divinité, pas seulement on la prie, pas seulement on lui fait des cadeaux, des bisous, etc., mais on se nourrit d'elle, on s'abreuve d'elle, parce qu'elle se donne à boire et à manger à nous. Or, cette réalité du culte chrétien et du culte suprême de l'Église chrétienne, qui est le culte eucharistique, cette réalité, elle a un caractère traditionnel, non arbitraire. C'est assez important, c'est-à-dire que à travers l'histoire, qui est l'histoire juive et l'histoire ecclésiale, qui est une seule et même histoire, comme je le dis souvent, il n'y a pas de rupture entre l'histoire d'Israël et l'histoire chrétienne, c'est pas de rupture, c'est une continuité, un élargissement, un épanouissement, tout ce qu'on veut. À travers tout cela, il y a une continuité, il y a une cohérence. Ça, c'est trop long pour le montrer maintenant, mais on pourrait montrer. Donc il y a une cohérence dans les rites, il y a une cohérence dans les prières, il y a une cohérence. Justement, le père Baumstark a montré que cette fameuse prière du Notre Père que je citais tout à l'heure, comme donnée par Dieu, elle est faite de plein de petits bouts qui se trouvent dans l'ensemble de la Bible. C'est comme une espèce de synthèse de citations, de micro-citations, en quelque sorte, qui se trouvent dans l'ensemble de l'Écriture. Donc il y a une continuité, il y a une cohérence. Il y a une cohérence, et même la nouveauté, même ce qui peut être nouveau dans la tradition biblique, et qui apparaît comme nouveau, parce qu'on dit, on parle du Nouveau Testament, on parle du nouveau peuple de Dieu, etc., c'est nouveau dans le sens de renouvellement, si vous voulez. C'est jamais une nouveauté radicale. C'est une nouveauté comme quelque chose qui resplendit. Quelque chose qu'on avait, qu'on aimait, qu'on cultivait, qu'on respectait, mais qui maintenant resplendit d'un éclat absolument nouveau, justement. Alors, donc, et ça, c'est l'aspect traditionnel sur lequel il faut revenir. Et puis, un aspect qui est très important, mais qui est déjà sous-entendu dans ce que j'ai dit, c'est le caractère communautaire. La liturgie chrétienne, le culte chrétien, les services chrétiens sont principalement des activités communautaires. C'est des activités dans lesquelles les membres du Christ, que sont les baptisés, sont en action. Quand on dit que le Christ est présent, mais il est présent en tant que personne distincte, c'est vrai, mais il est présent aussi dans les membres, dans ces membres que nous sommes. Il est présent par nous. C'est pour ça qu'il est indispensable de participer à la divine liturgie, parce que c'est notre présence qui rend aussi le Christ présent. Enfin, qui le rend présent, oui, qui contribue à sa présence. Comment voulez-vous que quelqu'un soit présent sans son corps? Ça a l'air de quoi? Une tête? C'est n'importe quoi, vous voyez. Le Christ ne peut être présent que par la présence de ses membres. C'est pour ça que l'absentéisme dans l'Église est un mal. C'est une inconscience, quelque chose qui nuit à la présence justement du Christ. Par principe, tous les baptisés doivent être là. Il vaudrait mieux célébrer la liturgie plus rarement, ça ne célébrer que le dimanche par exemple, mais que ce soit un rassemblement, une présence de tous, que le rassemblement du peuple de Dieu pour l'activité la plus importante à laquelle il puisse se livrer, qui est justement d'offrir cette prière que le Christ offre, ce sacrifice non sanglant que le Christ offre pour le salut du monde entier. Je termine par ça parce que c'était assez... j'ai remarqué, je ne ferai pas état de mes sentiments, pour ça pas très intéressant, mais j'ai remarqué quand même que dimanche dernier, au moment où il y avait cette manifestation avec 3 millions de personnes, pas moi, des, beaucoup de monde dans Paris, dans d'autres villes de France, eh bien nos églises n'étaient pas pleines. Nos églises ne débordaient pas. Et ça m'a beaucoup frappé, ça, parce que je me suis rendu compte qu'au fond, les chrétiens que nous ne sommes pas bien conscients de ce que nous sommes, et nous ne sommes pas bien conscients de ce que nous avons à faire dans ce monde. L'action la plus utile que nous pouvions avoir à ce moment-là, ce dimanche 11 janvier, je crois, c'était d'être tous présents, tous à réaliser cette présence du corps du Christ par nous-mêmes en tant que membres, et nous livrer à l'action la plus utile pour le monde, la plus utile pour notre propre pays, la plus utile pour le salut même de ceux qui ne croient pas, des gens qui avaient été assassinés, qui étaient plutôt des mécréants quand même, dans l'ensemble, je crois, à ma connaissance, bon. Mais c'était aussi pour leur salut que nous nous réunissions pour la prière pour le monde. Moi, j'imaginais que nos églises auraient pu déborder, par souci du monde, vous voyez. Or, nos églises débordent à Pâques, à Noël, mais c'est un peu de manière égoïste, parce que nous, les orthodoxes, nous faisons la fête, mais pour un peu pour nous-mêmes, pour notre satisfaction identitaire, et tout, c'est très bien ça. Mais imaginez que nos églises débordent, hein, qu'il y ait 500 000 personnes, et des gens dehors, et tout, une extraordinaire manifestation des chrétiens, pendant qu'une manifestation civile se déroule ailleurs, vous voyez. Et ça veut dire que cette conscience de la présence du Christ, cette conscience du mystère de l'Église, elle n'est pas une conscience, c'est pas toujours une conscience très forte, hein, vous voyez, chez nous. Donc il y a beaucoup à faire dans la catéchèse, dans l'exemple aussi, par la prière. Je pense qu'il faut enseigner beaucoup ces choses-là. Non seulement nos rites ne sont pas des rites vides où il ne se passe rien, ce que j'ai quand même entendu, mais il y a quelqu'un, il se passe quelque chose, et ce qui se passe, c'est la chose la plus importante du monde. Voilà. Pardonnez-moi.